Oui, moi j'étais. En plus, il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais t'as cours à midi, ça va, chill. J'étais en mode, ouais, mais j'ai un cours où je dois participer, je peux pas être en gueule de bois dans le fond de la classe, en mode, je tape ma meilleure sieste.
Ils ont vraiment. En fait, ils nous ont donné plein de bières, c'était en mode, ouais, ça fait plaisir de vous voir. C'était
bah, j'ai rien
cool.
payé, moi perso. Ouais, moi, t'as fait l'état dans lequel je suis rentrée. voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah voilà, chill. Après, on est allé au TD.
Alors là.
Moins chill. Là, par contre, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Il y a eu des affoncruches, il y a eu des fûts, voilà.
Alors, pour détailler la affoncruche de Romane, elle a quand même dit « Ouais non, c'est ce soir, pas de cruche. » Et 5 minutes après, elle vient me voir « Gros, donne-moi une cruche. » Et elle a bu la cruche, mais comme une reine, et tout le monde qui était là « Ouais, Romane !» Elle était là « Y'a quoi avec sa cruche qu'elle venait de boire ?»
J'ai dit ça oui. Oh putain. J'ai en veau quoi, putain. J'ai honte. Franchement, je suis même pas fière, j'ai honte de moi. Oh god, c'était sympa.
Après une soirée bien arrosée, on a l'habitude avec mes colocs de se retrouver dans le salon pour parler de nos exploits de la veille. C'est presque un rituel. Tout y passe. Ce qui nous a fait marrer, ce qui nous a saoulé, la quantité d'alcool qu'on a bu, les personnes qu'on a chopées, les ragots des potes, etc. On aborde aussi énormément la notion de consentement.
Et je sais que j'ai une pote qui est partie en after avec un autre groupe de potes. Et le lendemain, elle m'a un petit peu débriefé son after. Et elle m'expliquait qu'il y a un mec avec qui elle s'est vraiment rapprochée. Et en gros, elle m'expliquait qu'ils se sont chopés. Et à un moment, elle lui a dit que voilà, elle avait envie de coucher avec lui. Elle lui a demandé si lui aussi, il a répondu que oui. Donc, ils ont commencé à se chauffer. Et à un moment, en fait, elle lui dit que bah, elle a vraiment envie de. Enfin, d'après ce qu'elle me dit, elle a vraiment envie de coucher avec lui. Mais que comme ils ont genre créé un truc, elle a pas envie que genre ça aille trop vite et que ce soit précipité. Du coup, elle demande s'ils peuvent genre arrêter. Et il était là, bah non, il n'y a pas de problème, tu dois pas le justifier, enfin t'inquiète, c'est normal. Et en gros, elle m'expliquait qu'elle était genre hyper, enfin pas choquée, mais genre sa réaction l'a étonnée, parce qu'en général, quand elle rentrait avec un mec, parce que ça lui arrivait des fois de rentrer avec d'autres mecs, ben dès que genre elle avait, tu vois, un petit doute, ils essaient de la convaincre pour coucher avec elle. Et elle m'expliquait que souvent, bah, en général, elle était en mode, bon bah ok, du coup elle couchait avec le mec et c'était sans lendemain. Et que là, ben, pour le coup, elle s'était un peu plus sentie safe.
Vous écoutez « Balance tes mesures impuissantes », un documentaire au cœur de la guindaille ULBiste, réalisé par Léa Druck. Le 8 mars 2021, le compte Instagram « Balance ton folklore » a vu le jour. Depuis, plus de 380 témoignages ont été publiés sur la page. Ces témoignages parlent d'agressions qui se sont passées dans le cadre du folklore. Face à ce nombre qui ne cesse d'augmenter, les autorités de l'ULB, l'Université libre de Bruxelles et les cercles ont décidé de réagir en prenant des mesures. Augmentation de la prévention, création d'un poste de délégué égalité et inclusivité dans les cercles, renforcement de la cellule CACHI, qui est un centre d'accompagnement et de soutien dans les risques de harcèlement envers les étudiants et étudiantes, et l'instauration de chartes sur le consentement. Malheureusement, ces mesures tâtonnent encore. C'est dans un petit local du bâtiment U qu'avec ma coloc Romane, on débute notre soirée. On appelle ça un pré-TD. Dans le parcours d'une soirée classique à l'ULB, c'est la première étape avant de terminer en TD.
Alors, je suis au cercle de journalisme et communication à l'ULB. Du coup, c'est un cercle étudiant, ce qu'il y a de plus classique. Et on fait une petite soirée ce soir sur le thème de The Office. Donc, c'est chouette. Et on a fait... on a imprimé des photos et des mèmes pour les coller un peu partout. Et il y a certains délégués qui ont créé des petites cravates, trop mimes, c'est tout. Du coup, voilà. Et des petits avions en papier aussi.
Au pré-TD, il y a plusieurs choses mises en place par le cercle pour sensibiliser les étudiants et étudiantes. Au CJC, le cercle de journalisme et communication, par exemple, il y a des affiches sur le consentement collées un peu partout dans la pièce. En cas d'agression, le cercle est préparé, mais les infrastructures, elles, ne sont pas faites pour accueillir une crise.
Ça nous est déjà arrivé chez nous qu'il y ait une crise, j'ai envie d'appeler ça une crise EI qui a eu lieu en plein pré-TD.
Cette voix, c'est celle d'Inda. Elle est déléguée égalité et inclusivité au CJC.
Bon, bah, où est-ce que je vais avec cette personne quand elle a besoin de me parler? Je peux pas aller dans la réserve. Aller dans les couloirs, bon ben, c'est ce qu'on a fini par faire, mais Dans les couloirs, il y a du passage, des oreilles, on va dire, parfois un petit peu curieuses. C'est pas un endroit où vraiment tu peux te poser, être en paix, on va dire, pour ça. Donc clairement, il n'y a pas de... Les cercles, les préfabs, tout ça ne sont pas conçus pour accueillir une crise EI, on va dire, ou une crise RDR, qu'importe.
E et I pour égalité et inclusivité, ce sont les délégués qui s'occupent de la prévention et de la gestion des violences sexistes et sexuelles qui peuvent avoir lieu dans un cercle ou pendant une soirée. RDR, c'est pour réduction des risques. Ils gèrent les soucis en cas de premier secours principalement.
Et nous, ce qu'on a essayé de faire au CJC, c'est qu'on a mis plein d'affiches de prévention, affiches qui ont été données par ULB Santé, en mode bah, quand c'est non, c'est non. Si c'est pas oui, c'est non. Enfin, plein de petites affiches comme ça qu'on a mis partout. Sur ces affiches, on a nous-mêmes écrit « Demandez pour Angela au bar, si vous avez un problème ». Et voilà, je pense que le rôle de I peut même être encore plus développé au sein des, enfin, pendant les pré-TD. Du coup, je pense que c'est quelque chose que je rajouterai dans la charte aussi.
La charte, c'est un document que sont en train de développer les délégués égalité et inclusivité. Dedans, il y aura toutes les démarches à suivre en cas de violence sexiste et sexuelle, dit VSS, au sein du cercle. Léa est déléguée égalité et inclusivité au CROM, le cercle de Romane, comme les lettres, pas comme ma coloc.
La charte sur les violences sexuelles est nouvelle. Il y avait déjà des chartes sur discrimination, les propos sexistes, etc. Ça, ils avaient déjà, mais pas encore les violences sexuelles. Donc les nouvelles, mais je sais qu'il y a la charte du coup de la CE, que tous les cercles doivent respecter, et que chaque cercle a sa charte, c'est compliqué à dire. Et du coup, on est en train de l'écrire, et que dedans, il y a des choses à respecter, et les sanctions qui peuvent être données aux gens quand ils ne respectent pas les règles posées. Et ces chartes sont importantes dans le sens que ça nous donne une sorte de légitimité et vraiment un argument en disant « t'es membre, tu vas à nos soirées, tu as la charte devant toi, il y a ça et ça et ça mis dedans, tu dois la respecter, ce n'est pas le cas, il y a des conséquences. » Surtout au sein des délégués, parce que quand on est délégué, du coup, on adhère d'office à la charte. Donc ça, je pense que c'est bien. Et je sais que ces chartes sont faites de manière très très large, dans le sens qu'elles ne sont pas exhaustives, et donc on peut mettre des listes de faits dedans, mais rien n'empêche d'avoir un cas auquel on n'avait pas pensé pendant l'écriture de la charte qui se présente, mais quand même utiliser la charte pour réagir. Donc ça, je pense que c'est bien. Après, je pense aussi que l'existence de chartes, c'est pas encore très connu. Au sein du folklore, oui. Mais je pense au niveau des gens qui sont juste étudiants à l'ULB, enfin juste étudiants à l'ULB et qui viennent aux soirées du folklore sans être baptisés, sans être délégués, sans être membres d'un cercle, ne savent pas spécialement que ça existe et qui peuvent avoir des conséquences à ce niveau-là. Enfin, je sais pas si... Peut-être c'est faux, j'en sais rien, mais j'ai l'impression.
La CE, c'est l'Association des cercles étudiants. Inès était la responsable des délégués égalité et inclusivité. Le lendemain de notre interview, elle a démissionné pour des raisons principalement personnelles.
Alors, techniquement, une charte n'a pas réellement de valeur juridique. Par contre, ça peut nous protéger au niveau de tout ce qui est diffamation. Donc, par exemple, si on met dans la charte, chaque membre du cercle n'a pas le droit de commettre un acte qui nuirait à la réputation du cercle. Ça fait que si jamais quelqu'un est accusé de VSS, et tant que la personne n'est pas jugée coupable, on ne peut pas dire publiquement « Ah, t'es un violeur » ou « Ah, t'es un agresseur ». Du coup, on peut dire « Ah, mais en fait, tes actions, que tu les aies faites ou pas, se répercute sur la réputation du cercle, donc on préfère t'écarter de notre cercle. » Et ça fait qu'on peut virer des gens sans risquer d'avoir de procès pour diffamation. Donc c'est se protéger, protéger nos membres. Bon, c'est pas idéal parce qu'au final, ben, même si on vire les agresseurs, ils sont toujours à la nature.
Quand on ne peut pas avoir de conséquences judiciaires sur un agresseur ou une agresseuse, il peut quand même y avoir des conséquences au niveau de ses études. Alain Levesque est le vice-recteur aux affaires étudiantes de l'ULB. C'est lui qui prend en charge les affaires de violence.
Alors sur toutes ces questions-là, il y a évidemment des lois. Et donc ça veut dire que si une étudiante ou un étudiant est victime d'actes qui sont répréhensibles par la loi, je pense que le premier réflexe doit évidemment être de porter plainte. Ça, c'est une chose. À côté de cela, il y a toute une série de démarches à l'interne qui permettent à ces victimes de déposer une plainte. Et dans ce cas-là, c'est plutôt au vice-rectorat affaires étudiantes qui va devoir instruire le dossier en écoutant évidemment la victime, mais aussi toute une série de témoins. Et ce sont des dossiers à charge et à décharge. Donc on écoute aussi les autres personnes et on complète le dossier. Et c'est un dossier qui va aller, en fonction de la gravité des faits, qui va aller en commission de discipline avec les décisions qui peuvent aller... de rien du tout, si la commission de discipline estime que ça doit être la décision prise, jusqu'à l'exclusion de l'université.
Donc concrètement, si on est victime d'une agression, qu'est-ce qui se passe ?
Nous conseillons toujours aux étudiantes et aux étudiants d'aller vers la police de toute façon. Et puis, la procédure judiciaire va suivre son cours, qui est malheureusement souvent un petit peu lent. Et puis de notre côté, on va aussi prendre le dossier, plutôt pour prendre des décisions de En termes de prévention. Et si, par exemple, il y a une dangerosité de l'une ou l'autre personne, c'est de lui interdire, par exemple, l'accès à certains locaux ou l'accès à des campus, de façon à rendre les campus toujours sécures et safe pour le reste des étudiants.
Quand le prêt-à-TD est terminé, on fait souvent les chants des cercles. Avant, on allait au préfab après les prêt-TD pour continuer la soirée. Mais depuis début 2023, les préfab doivent fermer à la même heure que les cercles dans le bâtiment U. Sur place, il n'y a pas non plus de safe zone, juste des agents de sécurité qui tournent autour pendant la soirée. Les agents de sécurité sont sur le campus et veillent à la sécurité des étudiants et étudiantes. Ils sont les premières personnes de référence quand il y a un problème que le cercle ne peut pas gérer. Pour aller en TD, le trajet dure une quinzaine de minutes. Les étudiants et étudiantes le font à pied et ce n'est pas toujours très safe. Je n'ai pas passé ma soirée avec Roman, donc je lui ai demandé de m'envoyer des vocaux pour m'expliquer sa soirée.
Bon, là du coup, on est en route pour le TD avec Diego.
Hello!
Bon, ne garde pas ça pour le podcast, mais c'est Léa, je dois aller faire des vocaux. On est en chemin pour le TD avec Diego, mon coloc, donc je me sens hyper safe, je sais que ça va bien se passer. Après, on verra bien qui sera au TD, mais je sais que je suis avec des amis et tout. On est avec Anna, Corentin, Diego, et c'est vraiment genre trop mes meilleurs potes, du coup je sais que je suis en safe place à ce moment-là, donc vraiment aucun souci, voilà quoi. Mais je te dis quoi plus tard.
En TD, c'est principalement la sécu qui s'assure que tout se passe bien à l'intérieur et à l'entrée. Je leur ai demandé de répondre à mes questions, mais ils ne pouvaient pas sans autorisation de la boîte. Mais en cas d'agression, ce sont eux qui seront informés en premier. Ils ont une ligne directe avec la police et les secours. Et le cercle organisateur du TD, lui, se charge de la safe zone.
ULB Santé se met en partenariat avec des partenaires extérieurs, notamment OIS et des structures comme celle-là, pour assurer une zone qu'on appelle une safe zone, qui est safe notamment au niveau santé, mais également sur les questions de harcèlement et de violence. Pour ce qui est de la GEFC, on a mis en place une safe zone, je dirais, temporaire, puisque c'est une tente, c'est un petit chapiteau, une grosse tente qui est mise en place et qui est chargée d'une part d'accueillir les personnes qui sont victimes de situations de violence ou de harcèlement, et notamment à caractère sexuel, et qui est aussi une zone qui permet à des étudiants et étudiantes de dégriser un petit peu lorsqu'ils ont un petit peu trop bu.
Sur le campus de la Plaine de l'ULB, et c'est en gros des soirées organisées par des étudiants pour des étudiants.
Je suis Corentin, président du CERF d'Histoire de l'Art et d'Archéologie, et aujourd'hui on organise notre TD Charte, la course au fût. Je regarde ce que tout se passe bien, c'est un peu fun, avec beaucoup de responsabilité, zéro alcool, mais bon, il en faut comme ça. Et j'ai la joie de porter l'oreillette, le beau et unique contact avec la sécu. Donc s'il y a un souci à l'entrée, ils me contactent. Si j'ai un souci à l'intérieur, je les contacte. C'est du donnant-donnant. Bon, là actuellement, il est 23h10. On n'a pas encore eu de problème, mais si jamais, je serai appelé à courir dans n'importe quel sens.
Pendant que Roman faisait sa soirée, je suis allée voir avec Léa à quoi ressemble la safe zone. Ce soir, il pleut et le sol est très boueux.
On passe par la boue ?
Mais t'as pas d'autre solution, en fait.
C'est ça.
Donc, oh putain, c'est méga casse-gueule.
Ça va être compliqué.
Mais attends, mais t'arrives d'être à sous.
On va pas rentrer. Salut.
C'est toi.
Je suis Léa. Normalement, je suis en ligne volante, mais je sais pas vraiment ce qui s'est passé, donc je suis là. Enfin, si je sais ce qui s'est passé, mais bon, je suis là. Mais je pourrais vous mettre au point.
Par contre, c'est casse-gueule quand tu fais jouer ici ?
Ouais, ouais, ouais. La boue, là.
Ouais, c'est chaud.
Ouais.
Il y a pas moyen de mettre des plaques en bois ?
Non, on n'a pas. Vous avez fabriqué ces cornets aussi ?
Je trouve cette zone pas du tout accueillante. C'est une grande tente blanche et quand tu viens de te faire agresser ou harceler ou t'as fait une crise de panique, t'arrives dans une salle où il y a du parquet, du faux parquet au sol, une table et une chaise quoi. C'est tout. C'est vraiment. Enfin, je dis pas que j'ai un petit salon avec des petites guirlandes et tout, mais vraiment c'est un peu. J'arrive là, je suis en fait, je vais rentrer chez moi quoi. Enfin, t'as pas spécialement envie de te poser là le temps de.
Sur ce point, Inda rejoint les propos de Léa.
Ce qui est ressorti du Q1, c'est qu'en fait, quasiment personne, si pas personne, n'est venu pour des problèmes de violence sexiste et sexuelle à la safe zone.
Et pourquoi, tu sais ?
Alors, nous, les hypothèses qu'on a émises, qui ont été, que les UI ont transmis pendant cette réunion, c'était que, bah, en fait, tout le monde se connaît dans le folklore. Et que les UI sont des étudiantes ou étudiants aussi. Et que je pense que c'est très délicat d'aller parler de problèmes comme ça, d'étudiants à étudiants. Parce que tu sais pas si tu peux avoir confiance ou pas sur on va dire le secret professionnel autour de tout ça, vu qu'au final on n'est pas des professionnels.
Quelle est la situation actuelle en safe zone ?
Là, il est 2h10. Et personne n'a besoin de venir s'isoler ou de soins en safe zone. Donc c'est plutôt calme. Après, c'est pas un TD super rempli, mais voilà, tout va bien pour l'instant.
J'ai oublié de faire des vocaux, mais en gros, là, actuellement, je suis au bar de la GEC et ça fait 3 fois que je me fais couler. J'affonne à chaque fois avec Noé, un des barman de Solvay. Et vu que je bois pas, je m'en fous. Ça se passe très bien, on passe une très bonne soirée. Je te tiens au courant pour le reste. Bisous le 5.
À la fin du TD, on chante les chants du cercle. Ça marque la fin de la soirée et il est l'heure de rentrer. Et quand on rentre en taxi, en transport ou à pied, le trajet peut être dangereux, surtout quand on est bourré.
Je suis déjà rentrée, mais je vais quand même te faire un vocal du coup. Mais en gros, on était devant la GEF qui est tout et... À Skip, il y avait une BSG, donc la même chose que le TD, mais à la VUB. Et perso, j'avais pas du tout envie d'y aller, donc j'ai décidé de rentrer. Digo m'a dit que lui pensait y aller, donc je suis rentrée seule. Enfin, j'ai commencé mon chemin seule, et puis sur le chemin, j'ai vu le trésorier du cercle qui faisait le TD, qui m'a dit qu'il rentrait à Cimetière d'Ixelles. Du coup, je suis rentrée avec lui. Et en fait, il habite la même rue que moi, donc je suis pas du tout rentrée seule. Ce qui est chouette quand même, pour une fois. Donc voilà, il n'y a pas eu de soucis, il n'y a pas eu de problème ni rien. On a parlé tout du long. Les rues étaient désertes, il y avait juste quelques personnes devant certains bars. Mais voilà, il y a eu de particulier, quoi.
Cette fois-ci, Romane n'a pas eu de problème, mais elle a eu un peu chaud en rentrant solo à plusieurs reprises.
C'est déjà arrivé deux fois en rentrant de l'année. Il y a une fois, je pense que la première fois c'était ça. En gros, je suis rentrée et j'ai vu un mec qui était vraiment en train de marcher et un peu naïve que je suis, je n'ai pas pensé que le mec me suivait. Et c'est vraiment, à chaque fois que je rentre, quand je mets mes clés dans la porte, je regarde à gauche et je regarde à droite avant d'ouvrir. Et au moment où j'ai fait ça, j'ai vu le mec courir. Du coup, genre, j'ai tourné la clé, je suis rentrée très vite. Et j'ai refermé la porte derrière et je me suis dit que j'allais fermer la... Parce que du coup, on a une porte qui claque, donc t'as pas besoin de fermer derrière toi en tant que telle. Je me suis dit que j'allais fermer cette porte et le mec a passé ses doigts dans la boîte aux lettres, parce qu'on a un trou pour la boîte aux lettres. Et a passé ses doigts en mode, il cherchait à ouvrir le bail, tu vois. Et j'avais mes clés sur la porte, mais j'arrivais pas à tourner. Et vu que je me suis dit, si je fais un faux mouvement et que j'ouvre dans la panique... et que le mec me pousse, genre, je suis morte, clairement, genre, il n'y a pas d'autre solution. Du coup, j'ai juste arraché mes clés de la porte, en me disant, bah, tant pis, genre, ici où j'habite, mais y a la porte, ok, elle est un peu misi, mais la porte d'entrée de notre appart, elle est quand même solide. Du coup, j'ai vite rentré, j'ai fermé la porte à clé derrière moi, de mon appart, et j'ai envoyé un message. Donc, en gros, on est deux appartements dans cet immeuble, et on se connaît tous, et on s'entend tous bien. Du coup, j'ai envoyé un message sur ce groupe, parce qu'on a un groupe... avec eux, pour dire que si quelqu'un sonnait, il fallait absolument pas ouvrir parce que c'était un gars qui m'avait suivi. Et du coup, voilà.
Nous sommes fortes, nous sommes fières, et féministes et radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fières.
Le 8 mars 2023, un piquet de grève est organisé à l'ULB en l'honneur de la journée de lutte pour les droits des femmes. Pendant deux heures, des actrices importants des cercles de l'ULB ont pris la parole pour dénoncer les inégalités présentes dans notre société.
Voilà, en tant qu'université engagée, elle se doit de mettre en place un plan concret et d'écouter les personnes qui sont des survivantes. Du coup, les solutions qui sont apportées, pour l'instant, elles sont insuffisantes ou problématiques. C'est des solutions qui sont ou sécuritaires ou qui consistent juste à dire « Ah, mais on n'a qu'à interdire aux étudiants et aux étudiantes de faire la fête ». C'est la preuve que... les institutions de l'ULB sont déconnectées de la réalité et ne comprennent rien au combat structurel, intersectionnel et urgent qu'il faut mener quant aux violences sexuelles. Et voilà, ce projet, on le porte pour que tous les étudiants et les étudiantes se sentent écoutés. On n'a toujours pas on n'a qu'une voix consultative. Chez les institutions de l'ULB. Et donc c'est encore une violence, on va se prendre des refus, encore des « non, on n'a pas l'argent, non, c'est pas possible », sans explication, ou on va nous demander « et vous avez fait une étude sur ce qui a été fait dans les autres universités ?» Ben non, en fait, je fais du travail gratuit tous les jours. C'est pas moi.
La personne que vous venez d'entendre, c'est un membre de l'Assemblée des étudiants et étudiantes en lutte contre les violences sexuelles qui vient d'être créée. Et ce qu'elle demande aux autorités de l'ULB, c'est de mettre plus de moyens pour notre sécurité. Deux ans après Balance ton folklore, les demandes faites aux autorités restent les mêmes. Pourquoi y a-t-il un sentiment d'insécurité sur les campus de l'ULB? Pourquoi, malgré tout ce qui est mis en place, le problème persiste? Quelles solutions pourrions-nous apporter en plus?
Qu'est-ce qu'il faudrait en fait mettre en place pour que cette safe zone fonctionne?
Pour moi, déjà des professionnels, ce serait mieux. Même au niveau des gens qui sont bourrés, parce que nous, on a des formations, on sait qu'on doit mettre en PLS, serrer la main toutes les 20 minutes pour voir s'ils ne sont pas en coma éthique, etc. Mais moi, je trouve que c'est quand même une charge mentale assez grosse. Et surtout au niveau de si quelqu'un vient, vraiment, je suis un peu désolée pour la personne, mais dire « moi, je sais rien faire pour toi », tu veux que j'appelle le CPVS pour toi, quoi. Donc je pense des professionnels au niveau vraiment des infirmiers, infirmières, ou
des gens, pas seulement des psys, mais je sais qu'il y a des associations qui sont beaucoup mieux formées, par exemple des gens qui travaillent dans les CPVS, qui sont beaucoup mieux formés que pour réagir dans ce genre de situation. Donc, voilà.
Ce qui pourrait peut-être être intéressant aussi, c'est que ce soit organisé pendant les cours, parce qu'en fait, que ce soit prévu dans les horaires de cours et que ce soit des activités obligatoires, parce que là, en fait, si on veut participer à des parcours de prévention, que ce soit SAMSOUL, etc., c'est toujours sur base volontaire. Donc ça fait qu'au final, c'est les personnes déjà intéressées ou peut-être déjà au moins curieuses d'eux qui y vont. Mais des personnes qui, je pense, sont agresseurs, agresseuses, sont pas du tout sensibilisées. Et donc, vont même pas se poser la question d'aller dans ce genre de parcours si c'est pas obligatoire. Donc déjà, rendre tout ça obligatoire. Et why not le faire pendant les cours. Et que ce soit organisé par l'ULB, limite que ça se fasse en classe, qu'importe. Essayer de trouver la meilleure formule avec les étudiants, mais que le plus de personnes possible soient visées, on va dire.
On en discutait il y a juste une demi-heure dans une autre réunion. Oui, c'est en train d'être discuté dans la commission de suivi des travaux de lutte contre les violences à caractère sexuel. Donc c'est dans le pipeline. C'est loin d'être simple, évidemment, mais ça s'est fait notamment sur la question du développement durable. Et donc oui, on milite pour qu'il y ait quelque chose de ce type-là. Alors la difficulté, c'est toujours de le rendre obligatoire. Et donc on voit quelles sont les voies et moyens possibles pour, si ce n'est pas obligatoire académiquement, que ça soit rendu quelque part obligatoire dans le processus d'entrée à l'université.
Mm-hmm. Okay.
Voilà, donc ce n'est pas aberrant comme idée.
Mais en fait, je crois que c'est triste aussi de se dire qu'on en arrivait là. Et c'est pour ça que je disais aussi que ça devrait être obligatoire pour un maximum d'étudiants à l'ULB, genre des cours de prévention, des parcours de prévention et de sensibilisation. C'est parce qu'en fait, il en va limite d'un devoir public, d'un devoir de citoyenneté, d'être conscient du consentement, d'être conscient d'être agresseur ou non. Enfin, ça fait de nous des citoyens, qu'on soit encore étudiant ou pas, on est citoyen et c'est une question de savoir-vivre, parce que quelqu'un qui est agresseur ou agresseuse au sein de l'ULB l'est aussi en dehors.
Et le lendemain, ça recommence. On est reparti. Parce que laisser la peur nous pétrifier n'est pas une option. On sort à nouveau parce que s'empêcher de faire la guindaille voudrait dire qu'on capitule. C'était « Balance tes mesures impuissantes », un documentaire de Léa Druck, aide à la réalisation Leslie Doumerc, au mixage Philippe Delchambre. Remerciements à toutes les déléguées égalité et inclusivité qui se bougent pour faire changer les choses. Un merci particulier à Inda, Léa, Inès et Chloé, à Romane, ma protagoniste et mes colocs, à Corentin, à Alain Levesque, à mon cercle le CJC et à Radio Campus. Thank you.